Parce qu'effectivement, il y a un domaine plus orienté nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce que les nouvelles technologies? Je vais vous parler des nouvelles technologies liées au signal. Alors, c'est un peu barbare quand je dis ça. C'est au signal audio, au signal vidéo. Donc, ça veut dire traitement des signaux audio, traitement des signaux vidéo, modélisation 3D de scènes de crime, recherche de corps par des techniques de sondage radar, recherche de cache dans des murs, etc., etc. Donc, on va essayer de balayer un peu tous ces domaines. Également, la biométrie, puisque la biométrie est un moyen d'identification. Donc, on a transposé les techniques de biométrie aux sciences criminelles pour essayer effectivement de les exploiter et voir dans quelle mesure la reconnaissance automatique peut nous être utile dans l'identification criminelle. Donc, je vais orienter l'exposé à travers, en fait, la répartition de mon département et les différentes activités qu'on traite. Donc, on parlera d'abord de tout ce qui est parole et acoustique, donc du signal audio, du signal de parole. Est-ce qu'on est en mesure de reconnaître un individu par sa voix? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un signal audio? Est-ce qu'il y a effectivement de l'audio-surveillance ou pas? Donc, j'aborderai un peu tous ces points. Ensuite, on verra le traitement de l'image à travers l'unité d'expertise vidéo-imagerie, où là, on abordera le traitement des vidéosurveillance, le traitement de la reconnaissance faciale. Est-ce qu'on est capable de reconnaître quelqu'un par son visage? On parlera aussi de face morphing, transformation de visage. Enfin, on balayera un peu tous ces domaines, d'authentification d'image également. Et on terminera par tout ce qui est modélisation 3D et mesure, où là, vous verrez effectivement des exemples concrets de scènes de crime modélisées. Donc, on va parler tout d'abord effectivement de l'unité parole acoustique et balayer les différentes missions qui nous sont attribuées. En fait, comment que ça se passe? Une mission, on travaille au service des magistrats ou des enquêteurs. Tout dépend à quel moment on en est dans le processus judiciaire. En fait, il y a un moment important, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'information. C'est-à-dire, l'enquête commence par les policiers et les gendarmes. Le procureur prend en charge l'enquête, oriente des investigations. Et au bout d'un moment, dès que le dossier est bien ficelé, il le transmet au juge d'instruction qui, lui, va décider d'ouvrir une information, c'est-à-dire de prendre l'affaire à son compte. Dès qu'on a cette ouverture d'information par le juge d'instruction, on est dans le domaine de l'expertise judiciaire. Au préalable, on est dans le domaine de l'examen scientifique. Donc, ce sont effectivement les magistrats, les enquêteurs qui orientent nos missions. À savoir, là, je vous ai donné en exemple quelques missions. On ne s'astreint pas simplement à ces missions-là. Toute mission qui a trait au signal, qu'il soit audio, vidéo, demandée par le magistrat, on va tenter de la résoudre. Le but de l'expert scientifique, c'est tenter d'apporter une réponse à une mission ponctuelle définie par un magistrat ou un enquêteur. Donc, dans le domaine de la parole et de l'acoustique, on travaille sur les traitements audio. Donc, je vous parlerai effectivement d'audio-surveillance. Énormément d'établissements ne sont pas vidéo-surveillés, mais on va dire télésurveillés, c'est-à-dire que c'est une surveillance audio. Je vous montrerai un cas concret d'amélioration d'un signal audio. L'analyse des boîtes noires sur les avions, dès lors qu'il y a un crash d'avion. L'authentification des enregistrements, qu'ils soient analogiques ou numériques. L'identification de sons particuliers, c'est-à-dire des coups de feu, des alarmes, des choses comme ça. Et puis, on va essayer de savoir si on est en mesure ou pas d'identifier un individu par sa voix. À votre avis, est-ce que c'est possible? Est-ce que la voix nous permet d'identifier un individu? D'en éliminer quelques-uns? Non? Tout le monde n'a pas lu tous les papiers de l'exposition scène de crime. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, je vais commencer par vous faire écouter, alors j'espère que le son va fonctionner, un exemple de ce qu'on appelle du débruitage. Comme je vous disais, énormément d'établissements ne sont pas vidéo-surveillés, mais audio-surveillés. C'est-à-dire que il y a des micros, des malfaiteurs vont arriver avec une voiture bélier, ils vont fracturer la vitrine, ils vont arriver, ils vont taper avec une masse sur un coffre-fort, et puis ils vont dérober ce qu'ils peuvent dérober. Donc, et tout ça, on aura simplement l'enregistrement sonore et on devra analyser l'enregistrement sonore. Donc je vais vous faire écouter un enregistrement sonore. Pour nous, ce qui est important à identifier dans ces enregistrements, c'est des noms, des surnoms, quelque chose qui peut identifier les individus qui sont sur la scène. D'accord ? Donc là, il y a un prénom qui est prononcé. Donc je vais vous demander d'essayer de le trouver. Voir si vous seriez des bons experts. Juste un prénom, hein, pas tout. Vous n'avez pas entendu? Donc c'est avant-traînement, donc c'est normal. Vous auriez entendu là, je vous embauchais tout de suite. Donc, je vais vous montrer après traitement. D'accord ? Donc là, c'est le cas, c'est l'enregistrement qui nous est arrivé. Donc, c'est un problème aussi, parce que des enregistrements comme ça, on en a plein les oreilles. Et au bout d'un moment, il faut quand même que notre audition soit assez bonne pour après essayer de détecter ce qu'on peut y détecter. Donc, je vais vous faire écouter l'enregistrement après. Donc là, faites un effort. Allez, on se casse, oui, mais ça, c'est pas un prénom. Francis, il y a autre chose ? C'est pas Francis, c'est Francky. Alors, rapidement, on comprend tout. Hein. Allez, Francky, vas-y, Francky, allez, on se casse. Arrête cette alarme, joue pas au plus malin. Enfin, tout ça est dit dans la phrase. Je vais vous le faire réécouter. Et avec un casque, on est capable de transcrire tout ce qui se dit assez facilement. Oui, il y a d'autres mots qui vous sont arrivés. Alors, une des difficultés, c'est que moi, j'entends tout parfaitement ici. Pourquoi ? Donc, je suis très bon, mais sinon ? En fait, tout simplement parce que je suis habitué. Non, c'est pas seulement ça. Je suis habitué, je sais ce que je dois retrouver dans le bruit. D'accord ? Donc, je le présente comme une difficulté parce qu'effectivement, dans le cadre d'une expertise judiciaire, on a tous des prénoms, des noms qui nous sont plus familiers que d'autres. Dès lors qu'on entend un prénom, un nom, c'est difficile de se dire est-ce que j'ai bien entendu ça ou est-ce que c'est le fait de mon environnement qui m'influence sur ce nom ou ce prénom. Donc, c'est la raison pour laquelle, en général, on se laisse un peu de temps et on vient réécouter l'enregistrement après pour voir si on réentend bien toujours le même nom, le même prénom, ce qui n'est pas évident et des fois on a quelques surprises. Donc en général, quand on peut le faire, on essaye d'écouter avec l'enquêteur, parce que là aussi, les enquêteurs, en fait, on est un institut national, ils viennent de toute la France, il y a des accents régionaux particuliers qui fait que des fois, ben, notre oreille n'est pas forcément adaptée à ces accents et l'aide d'un enquêteur peut nous être précieuse. Donc l'analyse des boîtes noires, donc les affaires médiatiques, on va dire bien sûr le Concorde, l'accident à Maracaibo, éventuellement, c'est pas encore fait, mais les deux super-étendards qui se sont crashés au large de Brest. Dès lors qu'il y a des crashs d'avions, on récupère en général les boîtes noires. Et il y a plusieurs organismes en charge de l'analyse de ces boîtes noires. Il y a le bureau enquête analyse pour l'aviation civile, bureau enquête défense, bureau enquête accident défense pour l'aviation militaire, et l'IRCGN qui est un mixte des deux, qui reçoit dans le domaine judiciaire tout ce qui vient de l'aviation civile comme de l'aviation militaire. Alors qu'est-ce qu'on y fait sur ces boîtes noires ? En fait, les boîtes noires sont de quelle couleur ? Orange, c'est assez facile. Hein. c'est derrière moi. Donc effectivement, elles sont oranges. Pourquoi elles sont oranges ? Voilà. Parce qu'en fait, une boîte noire, quand elle est à 200 mètres sous l'eau, c'est assez difficile de la retrouver. Donc, il vaut mieux une boîte orange assez fluo. C'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc, ces boîtes noires, en fait, qu'est-ce qu'on va y faire dessus ? On va d'abord extraire les données et essayer d'écouter les conversations entre les pilotes, les copilotes, la tour de contrôle, éventuellement les services de secours. Il faut savoir qu'il y a 4 pistes audio sur une boîte noire. Donc, il y a les conversations du pilote, du copilote, il y a la conversation avec la tour de contrôle et il y a un micro d'ambiance. Donc à partir de tout ça, on essaye de regrouper les données pour d'une part transcrire les conversations et d'autre part essayer de savoir qui est-ce qui parle et à quel moment. C'est-à-dire est-ce que c'est le pilote qui parle dans les 20 dernières secondes du crash ou bien est-ce que c'est le copilote qui avait repris la main parce que le pilote a fait un malaise ? Est-ce qu'il y a un pirate de l'air dans la cabine parce qu'on entend une voix qu'on ne connaît pas ? Est-ce que c'est l'hôtesse qui a pris les commandes ? Là, on est sûr qu'on va au crash. Enfin, ce genre de choses. ou le steward. voilà, c'est mieux. Voilà, donc tout ça est important effectivement. Après, on va essayer d'analyser des sons particuliers, les sirènes d'alarme, parce qu'effectivement, le Concorde, peu de temps avant qu'il se crache, il y a une sirène qui s'est mise en route. Donc, on va essayer de savoir quel type de sirène s'est mise en route et à quel moment. Est-ce que le pilote pouvait faire quelque chose dès lors que la sirène s'est mise en route ou pas ? Et puis, à partir de là, le but est effectivement de dérouler différents scénarios pour essayer de savoir ce qui a pu se passer. Donc, on travaille également sur tout ce qui est authentification d'enregistrement sonore. Alors, autant en analogique, c'est assez compliqué pour trafiquer un enregistrement sonore. L'analogique, c'est les cassettes. La cassette que vous voyez là, c'est de l'analogique. Le numérique, ben, c'est du fichier audio, c'est du MP3, c'est du WAV, c'est tout ce que les jeunes manipulent aujourd'hui. Et là, c'est beaucoup plus facile à trafiquer, puisqu'il suffit globalement d'enlever un morceau du signal, en mettre un autre, tout ça est assez facile. Alors, comment on travaille ? On travaille de deux façons différentes. Sur l'analogique, on va essayer d'étudier la cohérence des bruits de fond et le continuum du bruit de fond. C'est-à-dire, on va vite s'apercevoir s'il y a une coupure dans le bruit de fond par étude simplement des fréquences qui sont dégagées dans le bruit de fond. Pour l'analogique, ça va être un peu différent. Parce que, en fait, l'analogique, on a forcément, bon, si c'est mon ordinateur, il est relié au réseau électrique. Et le réseau électrique, c'est du 50 Hz. Donc c'est une fréquence du 50 Hz qui sera comme ça tout au long du signal. Et si je fais une coupure sur mon signal et je la mets à un autre endroit, le signal que j'aurais coupé, mon 50 Hz ne sera pas le même, parce qu'il y a des petites fluctuations autour de ce 50 Hz. Donc je vais vite m'apercevoir de la manipulation. Un cas concret qu'on a eu là-dessus, c'est une nourrice qui avait transmis une cassette, donc c'était de l'analogique, aux enquêteurs. Et sur cette cassette, on entendait une petite fille qui parlait d'actes de pédophilie exercés sur elle de la part de ses parents. Alors, ce que nous ont demandé le magistrat via les enquêteurs, c'est de savoir si l'enregistrement, effectivement, c'est la petite fille qui parlait en continu ou pas. Parce qu'effectivement, est-ce que la nourrice a posé des questions ? Est-ce que la nourrice a orienté la petite ? Est-ce que la nourrice a elle-même dit à la petite de répéter des mots et simplement en coupant l'enregistrement ? Donc c'est effectivement ce qu'on a réussi à mettre en évidence. Il y avait des stops, des pauses, des plays, des surenregistrements qui n'auraient pas dû être sur la bande. Donc ça veut dire que la nourrice avait arrêté l'enregistrement. Ça, après, c'est à l'enquêteur de le dire. C'est pas à nous. Hein. Mais c'est la supposition qui s'est révélée effectivement positive. C'est que la nourrice arrêtait l'enregistrement, disait à la petite de répéter ce qu'elle elle disait elle-même. La petite avait 4-5 ans, elle n'est pas capable de comprendre des mots de pédophilie. Et là, on touche à des infractions très particulières. Parce que quand vous êtes taché, on parlera de tache de sang tout à l'heure, mais quand vous êtes taché par une affaire de pédophilie, c'est très difficile à enlever et vous pouvez rapidement compromettre quelqu'un et ça va très vite, quoi. Donc heureusement, ça s'est, en l'occurrence, arrêté très vite. La récupération de messages téléphoniques vocaux à distance. Donc effectivement, dans l'instant, j'ai un téléphone portable ici. À l'IRCGN, ils sont en mesure de récupérer toute ma messagerie téléphonique sans que je ne le sache. Ce qui est utile pour différentes affaires, type stupéfiants, etc. Et c'est valable aussi pour les répondeurs fixes. Ensuite, la détection des TMF. Est-ce que vous savez ce que c'est que la détection des TMF ? Qui est-ce qui est scientifique globalement dans la salle ? 1, 2, 3. Les scientifiques ont peur toujours. Qui est plutôt littéraire ? 2. Et les autres, en fait, baignent entre les deux. Donc la détection des TMF, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, c'est les bips du téléphone. Donc un bip, c'est très facile. En fait, on peut dans l'instant dire quel est le numéro qui a été composé, puisque un bip, c'est l'intersection de deux fréquences. Donc c'est le tableau que vous avez en bleu. C'est une normalisation internationale. C'est-à-dire que le 1, c'est toujours la même intersection de fréquences. C'est-à-dire qu'on saura toujours quel numéro a été composé. Donc on va arriver à la reconnaissance de locuteur. Donc, est-ce qu'on est en mesure de reconnaître un individu par sa voix ? Donc, certains m'ont dit on peut en éliminer, et d'autres m'ont dit non, c'est ça. Hein ? Donc il y a différentes méthodes pour analyser un individu par sa voix. Il y a un aspect phonétique. Sur l'aspect phonétique, vous allez vous concentrer sur quoi ? Vous allez vous concentrer sur des paramètres effectivement phonétiques, sur des tics de langage, sur un accent, sur une intonation, sur un timbre de voix, sur des mesures de fréquence. Et il y a un aspect plus automatique qui est très proche en fait de la biométrie. Et la voix est une modalité biométrique, on va dire, à l'intersection entre le physiologique et le comportemental. Je m'explique, le physiologique, c'est ce qui est vraiment propre à chacun d'entre nous. C'est-à-dire mon empreinte digitale, c'est une modalité physiologique. D'accord ? Je ne peux pas décider de changer mon empreinte digitale en la regardant. Ma voix, par contre, ça m'est très facile de la changer volontairement. Et malheureusement, ça m'est facile de la changer involontairement. Quand je vous parle comme ça dans le cadre d'une conférence, je ne parle pas de la même façon que quand je parle en famille. Si je suis enroué, ma voix ne sera pas la même. Avec 10-15 ans d'écart, ma voix ne sera pas la même. Donc effectivement, la voix peut varier et c'est pour ça qu'on l'appelle une modalité, qu'on la dénomme modalité comportementale. Donc elle est effectivement à l'intersection des deux. Donc l'approche à l'IRCGN est de fusionner la partie phonétique et la partie automatique, biométrique. La partie biométrique, ça fonctionne comment ? Pour ceux qui sont scientifiques, c'est on va extraire des paramètres du conduit vocal. Donc le conduit vocal, c'est tout ce que vous avez dans la gorge qui va jusqu'à l'extrémité des lèvres, donc notamment vos cordes vocales et les différentes cavités que vous avez, orales et nasales. Puisqu'effectivement, le son, il arrive comment ? En fait, vous avez les poumons qui vont envoyer de l'air, les cordes vocales vont générer une fréquence parce qu'elles vont vibrer. Et les articulateurs que sont la langue, les résonateurs que sont les différentes cavités qu'on a, les lèvres sont aussi des articulateurs, vont former un son. D'accord ? Donc c'est le produit de tout ça qu'on va analyser et on va extraire des paramètres caractéristiques de ce conduit vocal qu'on va modéliser pour différentes personnes. Et dès lors qu'on aura une personne à identifier et à mettre en face d'un suspect, on va extraire les paramètres dont je vous ai parlé de l'enregistrement anonyme. On va aller enregistrer notre suspect, on va créer un modèle de sa voix et on va le comparer avec les différents modèles qu'on a dans une base de données. Et on va voir effectivement de quelle voix on se rapproche le plus. Donc cette approche-là va nous donner un score et va nous dire oui, on est plutôt sur ce suspect-là ou non, on n'est pas sur ce suspect-là. L'intérêt de l'approche phonétique, c'est qu'on va pondérer notre résultat par l'étude de la fréquence fondamentale, l'étude de ce qu'on appelle certains formants. Les formants, c'est des redondances de notre fréquence de vibration des cordes vocales qui vont être un peu différentes selon qu'elles résonnent dans la cavité orale ou nasale. D'accord ? Donc le mix de tout ça nous permet effectivement de dire si c'est la bonne personne ou pas. Alors, pour revenir sur la question initiale, est-ce qu'on peut reconnaître un individu par sa voix ? Oui, mais pas au niveau d'une empreinte. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté là, il faut le pondérer par un niveau de performance. Le but de l'expert scientifique, c'est de mesurer un doute, c'est de mesurer une vraisemblance par rapport à l'information qu'il va donner à un juge. On n'est pas là pour dire au juge « oui, c'est lui, non, c'est pas lui ». Le juge, c'est ce qu'il aimerait. Mais la décision « oui, c'est lui, non, c'est pas lui », c'est au juge de la prendre. C'est pas l'expert scientifique. D'accord ? L'expert scientifique va dire « c'est plutôt lui, mais avec telle probabilité. C'est plutôt pas lui, avec telle probabilité ». Et maintenant, selon la discipline sur laquelle vous travaillez, si c'est l'ADN, cette probabilité sera très forte. Si c'est la voix, la probabilité sera quand même moins forte. C'est pour ça qu'on compare la voix plutôt à de l'écriture plutôt qu'à une empreinte digitale. D'accord ? Donc comme je vous disais, il y a différentes limites liées à l'enregistrement lui-même, la qualité de l'enregistrement, le bruit qu'on peut retrouver sur l'enregistrement. L'enregistrement que je vous ai fait écouter préalablement, avant traitement comme après traitement, je ne ferai pas de comparaison de voix dessus, c'est trop altéré, d'accord ? Il faut quand même un enregistrement d'assez bonne qualité. Donc pour information, vous avez en bas donc NIST 2005-2006, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, mais c'est des évaluations qui sont organisées par le département de la Défense aux États-Unis. Donc on a participé à ces évaluations internationales qui regroupent en fait les meilleurs labos dans le domaine de la reconnaissance de locuteurs pour essayer de classer en fait les systèmes les uns par rapport aux autres sur un corpus, sur une base de données établie. Et ça, pour nous, c'est très important parce que ça nous permet en fait de mesurer la fiabilité de notre système. Donc, on s'intéresse également aux voix déguisées. Donc là, je vais vous faire écouter une voix déguisée. C'est un kidnapping où la personne appelle la sœur de la victime. Donc, la victime, c'est un enfant qui a été... on a retrouvé son corps et lui donne différentes directions pour déposer des rançons ensuite. Et après, je vais vous faire écouter la vraie voix de l'individu qui a été identifié.
Vous allez prendre le train. Vous allez venir à Annemasse. Une fois à Annemasse, vous allez prendre le train. Vous allez venir à Annemasse en train. Et vous allez louer une voiture. J'espère qu'il y aura pas la police. Sinon, votre fils sera mort. Allô ? Vous avez loué une voiture ? Allô ?
Vous prenez à gauche. Écoutez, sortez du bébé hôtel, vous prenez à gauche. Vous allez tout droit, vous allez reprendre encore à gauche, vers la poste. Après...
D'accord, donc là en fait c'est une concaténation de différents enregistrements. C'est-à-dire qu'on a différents enregistrements du ravisseur qu'on a collés les uns au bout des autres. Et c'est pour ça que vous avez des différences d'intonation. De temps en temps, il est plus agressif. De temps en temps, on a l'impression qu'il retrouve sa voix normale, mais elle est quand même assez haute. Et là, vous avez effectivement la personne sa voix telle qu'elle a été récupérée sur des écoutes téléphoniques.
Ouais, allô, salut, c'est moi à l'appareil. Et toi, t'es par où? Tu vas rentrer dans combien de temps? Tu vas te sortir? Bon, maintenant. Ouais, je suis sur ça, je viens d'arriver là. Je suis juste à côté de chez toi là. Bon, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Je suis en vélo, Amel. Je suis en vélo. Je suis pas en voiture, je suis en vélo là.
D'accord. Donc, enfin, je sais pas si vous notez le contraste entre les deux, mais le contraste est assez significatif. Et là, alors c'est pareil. Donc, on va détecter le déguisement, essayer de reconnaître l'individu. Et de la même façon que on va donner une tendance et une vraisemblance, c'est-à-dire c'est cet individu-là avec telle probabilité. On s'intéresse aussi à un autre type de déguisement, c'est la conversion de la voix. Alors la conversion de la voix, c'est de l'imitation. On connaît les imitateurs. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les imitateurs, parce que des imitateurs, on n'en trouve pas comme ça partout, mais plutôt de transformer la voix automatiquement. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas employer le mot grossier, si ce n'est transformation spectrale. C'est-à-dire, on va transformer les fréquences d'un individu. Par exemple, les fréquences de ma voix, je vais les transformer pour les faire ressembler aux fréquences de votre voix. Et à l'issue, moi, je pourrais parler d'aujourd'hui, de choses et d'autres, et on pensera que c'est monsieur, effectivement, qui parle à ma place. Un cas médiatique, je dirais, c'est le cas de Ben Laden. Aujourd'hui, on a des enregistrements de Ben Laden. On peut convertir sa voix, et puis moi, je peux parler... Bon, il faudrait que je parle arabe, c'est pas le cas. Je peux parler de... on est le 21 octobre 2008, et on pense qu'effectivement, c'est Ben Laden qui parle du 21 octobre 2008. J'ai pas dit que Ben Laden était mort ou qu'il n'était pas mort. Hein. Mais voilà, on s'intéresse à ces problématiques-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès que tout ça sera au point, ce sera une vraie difficulté pour nous si on n'a pas pris le train en marche. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de convertir la voix, mais c'est d'être capable de remarquer que la voix a été convertie et d'appliquer la méthode réversible pour revenir à une voix originale. D'accord ? Et c'est un peu le principe qu'on utilise dans le cadre des voix déguisées. C'est-à-dire qu'on essaye de revenir par conversion à une voix normale. D'accord ? Je vais passer à la partie plus liée au traitement de l'image et à la vidéo. Donc, vous avez tous entendu, je pense, parler de vidéosurveillance, puisqu'aujourd'hui, c'est un gros chantier du ministère de l'Intérieur. Michel Alliou-Marie a décidé de tripler les caméras de vidéosurveillance sur la voie publique. Je vous rassure, on est encore très, très loin des Britanniques. Un Britannique qui est filmé 300 fois entre son domicile et son lieu de travail. Un Français, c'est encore... À Londres, pardon, pas un Britannique, à Londres, un Londonien. En France, on a l'ensemble des caméras en France représentent l'ensemble des caméras à Londres. D'accord ? Donc ça vous donne quand même une différence assez notable entre le nombre de caméras placées. Pour autant, sur la vidéosurveillance, il ne faut pas se tromper. La vidéosurveillance n'est pas la solution à tout. La vidéosurveillance marchera si c'est un système actif, s'il y a des enquêteurs derrière en mesure de faire marcher la vidéosurveillance. Je m'explique, si on met des caméras et on s'en occupe pas, elles ne servent pas à grand-chose, puisque si on va le voir tout à l'heure, malheureusement, les caméras de vidéosurveillance ne sont pas toujours de très bonne qualité. On s'équipe de vidéosurveillance, comme ça, on est assuré. On s'équipe de vidéosurveillance, comme ça, on croit qu'on est en sécurité, jusqu'au jour où, effectivement, il y a vraiment un cas qui se passe dans notre usine, dans notre magasin, et on s'aperçoit, ou dans notre centre de conférence, et on s'aperçoit que les images qu'on a pu traiter ne sont pas forcément de très bonne qualité. Donc, la problématique qu'on a, nous, c'est qu'on nous demande toujours d'identifier les individus sur la vidéosurveillance, on nous demande toujours d'identifier la plaque d'immatriculation du véhicule qui passe, et tout ça à partir d'images toujours très dégradées. Donc, bon, quelques types de traitements qu'on effectue, mais je vais plutôt l'illustrer par l'exemple. Et je vais commencer par définir la problématique de la vidéosurveillance. Donc, je ne sais pas si vous êtes coutumier des séries télé. Oui ? Non ? Les experts ? NCIS ? Non ? Pas trop ? Si, un peu. C'est pour ça que vous êtes là, de toute façon. Donc ici, vous avez... on va zoomer sur cette partie-là, d'accord ? Donc là, vous avez... je ne sais pas si vous connaissez la gothique dans NCIS, Abby. Donc là, c'est le travail d'Abby qui est forte en tout. Elle fait de l'ADN, elle fait le traitement d'image, elle fait tout. Donc voilà, elle fait ça, et puis on arrive à lire assez facilement ce qu'il y a dessus. Hein. Je ne sais pas si vous lisez, système, printer, etc. Alors qu'ici, vous n'arrivez pas à lire. Et à l'IRCGN, nous, ce qu'on fait, c'est ça. Donc on va dire, vous n'êtes pas encore au niveau d'Abby. Donc effectivement, on n'est pas au niveau d'Abby. Mais Abby, si je lui donne... j'ai un laser, je vais l'utiliser. Si je lui donne cette image-là, elle ne fera pas mieux que ça. Le problème, donc, c'est ce que j'ai marqué ici en rouge, c'est qu'ici, j'ai 2400 points sur la ligne. Ici, j'ai 240 points sur la ligne. Ce qu'on appelle la résolution de l'image. Quand vous achetez vos appareils photo et que vous regardez le nombre de pixels, voilà, c'est un peu lié à tout ça, si ce n'est que ce n'est pas que ça. Donc, dès lors que vous zoomez sur une image, vous avez ici, vous avez beau faire tous les traitements possibles, vous ne verrez pas ça apparaître parce qu'il n'y a pas assez de points pour coder l'information. D'accord ? Donc, c'est toujours assez frustrant pour les enquêteurs qui nous apportent ça et à qui on transmet ça, alors que la veille, ils ont vu à la télé qu'Abby, elle faisait ça. Quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du CSI effect ou des choses comme ça, mais c'est vrai que les magistrats comme les enquêteurs sont quand même un peu plus au courant, mais le magistrat, il n'est pas forcément plongé dans la technique, donc c'est des notions qui l'intègrent pas facilement. Mais la vidéosurveillance, malheureusement, les systèmes actuellement en place sont souvent plus proches de cette résolution-là que de celle-là. Donc on est dans un comité interministériel pour essayer d'améliorer un peu les systèmes de vidéosurveillance, pour imposer de nouvelles normes, de façon à faire monter ce nombre et pouvoir enfin identifier une personne ou identifier système imprinter pour le cas qui nous intéresse ici. Donc quelques exemples d'images réelles de vidéosurveillance. Donc ici, vous avez le cas de cassettes qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas changées. Donc en fait, c'est une station de service. Il y a eu un vol sur la station de service. Il y a un véhicule qui arrive à l'instant qui intéresse l'enquêteur. Et voilà, à l'instant qui intéresse l'enquêteur, ce qu'on a. Donc une cassette VHS, c'est composé de particules magnétiques. Et dès lors que ces particules magnétiques sont dégradées jusqu'à ce point-là, on ne peut malheureusement pas rien faire. On peut malheureusement ne rien faire parce que les particules sont parties, quoi. D'accord ? Ici, vous avez des autocollants devant l'objectif de la caméra. Donc, comme ça, on est sûr qu'on ne va pas reconnaître l'individu qui passe derrière. Donc ça, c'est une vraie négligence du directeur d'agence. Et ça révèle aussi l'importance qu'on accorde à la vidéosurveillance, quoi. On la met en place et puis après, elle doit vivre toute seule. Ici, vous avez des inscriptions qui sont laissées par l'opérateur. Donc, justement, dans le nouvel arrêté interministériel, on travaille à ce que les opérateurs aient une vraie formation et de leur dire de ne pas jouer avec leur Game Boy ou de regarder leur DVD pendant qu'ils sont en tâche de surveillance. Sinon, ça ne sert à rien. Ici, ben, on a eu du mal parce qu'il y a un véhicule qui passe derrière et on a une jolie araignée qui est descendue. On l'a identifiée. Hein. Mais en fait, c'est parce que la caméra a fait le focus sur la toile d'araignée. Donc, ce qui fait que tout ce qui est derrière, on n'a pas pu le voir, quoi. Bon, l'araignée identifiée ne nous a pas servi à grand-chose. Ici, ce qu'on explique par rapport à ça, c'est que soit vous surveillez les gens qui rentrent dans votre agence, et là, la caméra est très mal placée, soit vous surveillez la caissière, votre employé qui pique dans la caisse. Là, la caméra est bien placée. Mais ici, et je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'on s'est intéressé à la reconnaissance faciale, d'après vous, est-ce qu'on peut effectivement faire de la reconnaissance faciale là-dessus ? Non. Et je vais vous expliquer en détail pourquoi. On a développé notre propre système qui montre qu'il faut à peu près 20-25 pixels entre les deux yeux. Là, vous en avez deux. Donc, vous zoomez, vous avez une grosse mouche. Mais c'est assez difficile de reconnaître un visage quand vous n'avez que deux pixels. D'accord ? Et puis, alors ceux-là, ils nous ont occupés, mais bon, on n'a pas pu faire grand-chose pour eux. Ils ont voulu se soustraire aux caméras de vidéosurveillance. Donc, on les voit tranquillement qui rampent dans ce magasin-là. Puis heureusement, on les voit un peu plus tard. Donc ils ont un peu perdu leur temps à ramper là parce qu'un peu plus tard, ils montrent bien leur visage. Donc on a pu les identifier quand même. Donc ce qu'on fait, je vous ai parlé du problème de la résolution de l'image. Heureusement, on n'est pas complètement dépourvu par rapport à ce problème de résolution d'image. On peut appliquer ce qu'on appelle la fusion d'images. C'est de la super résolution. C'est-à-dire, la vidéosurveillance, on va prendre... Par exemple, ici, c'est une affaire de stupéfiant. Vous avez un véhicule qui va rester statique pendant quelques temps et la vidéosurveillance, où là, les enquêteurs vont prendre plusieurs images de ce véhicule. Nous, on va superposer toutes ces images-là pour essayer d'accroître la fameuse résolution. Et c'est ce qu'on obtient ici. Alors, ne me découragez pas. C'est la projection qui n'est pas terrible sur mon écran, c'est mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vous donne la réponse parce que, comme je vous dis, sur l'écran, c'est mieux. C'est 3603 RF26. Donc, ce type de technique est très utilisé en images satellitaires. C'est très utilisé pour essayer d'améliorer la Lune. Je ne sais pas si Hubble, à un moment, était aveugle, myope. Donc, il y a eu des techniques. Hubble, c'est le télescope qui permettait d'aller voir le Soleil. Il y a eu des techniques de super résolution pour justement essayer de mieux voir les cratères sur le Soleil, etc. Et le problème, c'est qu'eux, ils ont 200, 300, 400 images à fusionner. Nous, on en a 5, 6, maximum 10. Donc on essaye encore d'améliorer ces techniques pour vraiment avoir quelque chose de meilleur. Donc on a vraiment un travail en parallèle. D'un côté, on agit en interministériel pour rehausser les standards de vidéosurveillance pour avoir une qualité meilleure. Et de l'autre côté, on travaille sur effectivement une partie plus algorithmique pour améliorer la qualité des images. Donc cette image-là, c'est pour aborder la question de l'identification. Donc là, c'est l'identification au début du XXe siècle, où effectivement, on prenait des mesures des prisonniers pour essayer de savoir après si on les retrouvait en liberté, à quoi ils pouvaient ressembler. Ça vous fait penser à qui quand on parle de tout ça? Oui, donc il y a le gendarme, il a trouvé. Bertillon, d'accord, Alphonse Bertillon, le bertillonnage, donc qui est une technique de mesure du corps pour essayer de caractériser les individus. Donc on peut dire que Bertillon, il est à la fois à l'origine de la criminalistique dans sa composante identification et à l'origine de la biométrie, puisqu'il avait ce souci d'identification. Donc un paramètre d'identification qui parfois peut être utile, c'est la taille. Là, en haut, vous avez une image où vous avez un braquage, un individu cagoulé, celui-ci, qui braque donc une agence. Et ici, on a un suspect. Donc ça, c'est un personnel de chez nous. Donc on a fait une reconstitution, on a mis le suspect à la même place que lors du braquage, et on a reparamétré la caméra de façon à être sûr que la caméra n'avait pas bougé entre les faits et puis la reconstitution. Et dès lors, on fait simplement un détourage sur l'individu, puis on va appliquer ce détourage pour voir s'il y a une correspondance de silhouette. Vous allez me dire, pour enfermer quelqu'un en prison, c'est un peu facile. Alors, je vous rassure, c'est pas pour enfermer quelqu'un en prison, c'est plutôt pour le libérer. Il faut bien comprendre qu'un expert judiciaire, on appelle ça travailler à charge ou à décharge. Nous, on travaille pas pour enfermer quelqu'un ou pour libérer quelqu'un. On travaille juste pour la vérité, quoi. Donc si ça libère quelqu'un, tant mieux. Si ça enferme quelqu'un et que c'est la bonne personne, je vais dire tant mieux aussi. Donc dans ce cas-là, s'il y a un individu qui est en détention provisoire, qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, si on s'aperçoit qu'effectivement cette silhouette-là, elle s'arrête ici, par exemple, on va dire non, ça ne correspond pas du tout, libérez-le. Maintenant, s'il est en liberté et que la silhouette correspond, on ne va pas dire enfermez-le. D'accord ? La silhouette ne suffit pas à enfermer quelqu'un, heureusement. On a une technique un peu plus fiable, enfin un peu plus fiable en apparence. Donc ici, vous ne voyez pas, mais c'est trois chiffres après la virgule. Donc ça, c'est impressionnant. On met trois chiffres après la virgule. Le magistrat, l'enquêteur, ils sont impressionnés. Mais quel est le problème par rapport à ce type de précision? C'est qu'en fait, par rapport à votre taille et par rapport au moment où vous commettez le braquage, vous avez des chaussures, vous avez un casque de moto sur la tête, vous tenez voûté, vous tenez droit. Tout ça fait qu'il y a une fluctuation de la taille. Ensuite, quand vous marchez, votre taille fluctue de 7 cm. D'accord ? Donc la précision de 3 chiffres après la virgule est totalement inutile. C'est une façon de reconnaître un mauvais expert. Quelqu'un qui cherche à être trop précis, c'est un peu ridicule parce qu'il y a un paramètre d'incertitude qui est trop important pour essayer d'être précis à 3 chiffres après la virgule. Donc là, c'est un cas. Donc une personne qui, avant le braquage, va rentrer dans l'agence bancaire. Donc là, on fait ce qu'on appelle une modification d'histogramme. Et on va effectivement rendre la personne plus visible. Est-ce qu'à partir de ça, vous faites de la reconnaissance faciale? En tant qu'expert? Donc nous, experts judiciaires, on ne va pas en faire. L'enquêteur ou le magistrat, il va en faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence entre nous, c'est que eux, ils ont le suspect en face d'eux. Donc dès lors qu'ils ont le suspect en face d'eux, ils sont capables de dire effectivement les personnes se ressemblent ou pas. Nous, on n'a pas le suspect en face de nous, on va nous apporter une photo de très bonne qualité. Et le problème, c'est qu'effectivement, d'une part, la personne elle a la tête baissée. Et pour prendre les paramètres du visage sur une image d'aussi mauvaise qualité, c'est assez difficile, quoi. D'accord ? Donc ça, c'est utile à l'enquêteur au magistrat. En termes de reconnaissance automatique, c'est malheureusement un peu insuffisant. Donc on a développé notre propre système de reconnaissance automatique, justement, dans le cadre de notre participation en interministériel. L'idée, c'est on développe notre système de reconnaissance automatique et on essaye de voir à partir de quand il est performant, à partir de quelle qualité d'image. Donc il tourne pas en lien direct, donc je vais juste faire tourner le film de l'outil développé. Vous allez voir, ce qu'on fait, on va tout simplement rechercher une image, qu'on appellera l'image de question. C'est l'individu qu'on veut reconnaître. Donc la première étape va consister donc à extraire l'individu qu'on veut reconnaître, donc celui-ci. On va localiser les yeux de façon à remettre l'image droite. Et puis on va normaliser l'image, puisque dans la base de données, on a des images à ce format-là. D'accord ? Donc vous le voyez sourire là. Et là, c'est la comparaison avec la base de données. Et on voit effectivement donc l'individu qui sourit, l'individu qui sourit pas. Ça a matché, quoi. Cet individu était dans notre base de données de, on a à peu près 1500 images et il a donné le bon résultat, quoi. D'accord. Donc je vais laisser. On se base sur ce qu'on appelle les eigenfaces, mais quand on n'est pas du domaine, c'est quelque chose d'assez curieux. C'est-à-dire, c'est des visages un peu fantômes de l'individu, et c'est ces visages un peu fantômes là qui vont nous permettre de les identifier les uns avec les autres. Donc je vais aller peut-être un peu plus loin dans le film pour vous montrer un autre exemple. On va y arriver. Donc c'est un individu avec des lunettes. Voilà, donc je vais chercher un autre individu. Parce qu'en fait, ces outils sont relativement... On s'intéresse pas à des mesures précises, comme ça, entre les deux yeux, la distance, la forme des oreilles, etc. Donc de la même façon, on va recentrer l'individu. Et c'est des méthodes qui sont robustes au port de lunettes, robustes à la déformation de la tête, robuste à comme ça différentes possibilités. Donc vous voyez, il est ici reconnu en première position alors qu'il n'a pas de lunettes, quoi. Donc c'est des choses qui marchent assez bien. Ce qu'on a voulu faire par rapport à cet outil, c'est essayer de savoir à partir de quand on est aux limites de l'outil. C'est-à-dire qu'on a pris une distance, c'est la distance entre les deux yeux, ici, d'une image d'assez bonne qualité, un individu pris de face, bien éclairé, et on a fait décroître cette distance entre les deux yeux, d'accord ? Et on a regardé l'impact sur l'évolution de la reconnaissance. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aux alentours de 25 pixels entre les deux yeux, on commence à avoir un palier dans le niveau de performance du système. Donc pour nous, c'est un indice important, c'est-à-dire en deçà de 25 pixels entre les deux yeux, on ne cherchera pas à faire de la reconnaissance automatique. On s'appuiera plutôt sur les caractéristiques visuelles parce qu'on travaille, là aussi c'est comme pour la voix, on associe la reconnaissance automatique à la reconnaissance visuelle. Quand je dis visuelle, ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, on va découper le visage en proportions, on va voir si les proportions sont similaires, on va voir si la forme des yeux est la même, si la personne a des, pardon, a des lobes d'oreilles, quelle est la forme de son nez, quelle est la forme de ses lèvres, quelle est la longueur de ses lèvres, etc., etc. Donc tout ça nous permet effectivement d'aboutir à une conclusion qui est quand même relativement fiable. On s'est dit, comme on travaillait sur la reconnaissance faciale, on va essayer de voir le niveau de performance par rapport à des portraits robots. Donc on a là des portraits robots d'une personne. Donc on va juste prendre celui-là hein, pour l'exemple. Et dans la base de données, on a des photos. Donc cette personne-là, elle a été reconnue ici en cinquième position. Je vous montre quand même des cas qui marchent. Ça marche pas tout le temps, malheureusement. Donc elle est ici reconnue en cinquième position. On a poussé l'étude avec plusieurs techniques. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que dans les 9 premières identifications, c'est-à-dire ici, les 9 premières identifications ici, j'ai 40% de bonne reconnaissance. Donc c'est un chiffre qui, pour l'enquêteur, peut être particulièrement utile. Autant pour la reconnaissance photo que pour la reconnaissance portrait-robot. Parce qu'en fait, pour l'enquêteur, les 4-5 premiers... peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec la victime, ça n'intéresse pas, mais la sixième ou septième personne, c'est peut-être le cousin de la victime, c'est peut-être le frère de la victime, et là effectivement ça va donner une force probante au fait d'aller gratter un peu plus de ce côté-là. Donc on travaille aussi en termes de reconnaissance faciale sur la reconnaissance 3D. La reconnaissance 3D, en fait, en vidéosurveillance, malheureusement, les individus sont rarement de face ou de profil, ils sont souvent de biais. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que dès lors qu'on a un suspect, on va le photographier de face, de profil, et on va reconstituer son visage en 3 dimensions de façon à l'orienter dans la bonne position. Donc ce qu'on fait ici, on a un modèle générique et on va déformer ici, vous avez ce profil là qui est le modèle générique qui correspond, on va le déformer au profil de la jeune femme. On fait pareil pour la face et l'idée c'est d'avoir un visage comme ça en 3D qu'on peut tourner dans tous les sens pour effectivement faire correspondre par rapport à l'image qu'on a extraite de vidéosurveillance le bon visage et la bonne position. Donc, je vous ai parlé de voix, de visage. On s'intéresse aussi à tout ce qui est démarche, parce que sur la vidéosurveillance, tout ce qu'on peut extraire, c'est la démarche et le visage. Donc, ça fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va extraire des paramètres caractéristiques de la marche de certains individus, on va les modéliser dans une base de données, on va extraire ces mêmes paramètres d'un individu suspect et on va vérifier, pas de l'individu suspect, pardon, de l'image de vidéosurveillance, et on va vérifier ces paramètres, à quel modèle il ressemble le plus. D'accord ? Et à partir de là, on prendra une décision si c'est ou pas la bonne personne. Donc, on a cette approche-là, puis on a une autre approche, parce que malheureusement, en vidéosurveillance, les paramètres sont assez difficiles à extraire, parce que les gens ont la bonne idée de ne pas se trimballer nu dans le métro ou dans la rue, donc ils ont forcément des vêtements qui vont pas nous permettre de savoir où est le genou, de savoir où est le coude, de savoir où est la main s'ils ont des gants. Donc on va s'intéresser à la silhouette dans sa globalité, et c'est cette silhouette qu'on va étudier. On va calculer l'aire qu'on a ici pour chacune des silhouettes, et on va voir l'évolution de cette aire sur chacune des différentes figures, et voir de la même façon, avec un mix de différentes photos, lesquelles se rapprochent le plus. À partir de là, on pourra effectivement dire on est plutôt sur cet individu plutôt que sur un autre. Un travail qui nous a pris pas mal de temps aussi, c'est un cas donc réel qui nous a été donné par la section de recherche de Paris, où on avait 3 portraits robots d'un même individu. Le problème des portraits robots, c'est qu'ils ne se ressemblent pas tous. C'est-à-dire qu'un individu sera sensible peut-être à la chevelure, un autre au bas du visage, un autre aux yeux. Donc, ce qui fait qu'après, on se retrouve avec des portraits robots différents. Donc, ce qu'on a développé, c'est un système de transformation de visage. L'idée pour nous, c'est par rapport aux 3 portraits robots complètement différents, d'essayer de faire un 4e portrait robot qui résulte de ces 3-là, qui est une synthèse des 3. Donc, pour cela, on est parti, non pas de portrait robot, mais de photos. Donc, une photo source et une photo cible. Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de transformer la source vers la cible et récupérer l'image intermédiaire, d'accord ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est les images intermédiaires. Vous allez le comprendre au fur et à mesure, je pense. Donc ici, je vais sélectionner un certain nombre de points de contrôle. Je vais calculer les correspondances entre la source et la cible. Je vais découper différents rectangles sur les 2 portraits. Et la première étape va consister à, sans employer de gros mots, calculer la transformation linéaire de ce point vers ce point-là. Une fois que j'ai cette fonction-là, je vais l'appliquer sur tout le rectangle ici. Et je fais ça pour tous les rectangles qu'on a vus. D'accord ? Donc c'est l'étape de warping que vous allez voir ici. Donc ici, je vais déformer ce visage ici de façon à ce qu'il corresponde à celui-là. Là, vous allez me dire que c'est raté. Non, c'est pas raté. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est pas qu'ils se ressemblent, mais c'est qu'ils aient la même forme, la même taille. Après, il suffit de changer la couleur des pixels et puis j'aurai celui-là. D'accord ? Donc ici, vous voyez, on peut les rapprocher l'un de l'autre. Ils ont exactement la même taille. Donc après, on va arriver sur l'étape de ce qu'on appelle le blending. Alors globalement, ici, il y a ce petit paramètre-là qui est important, alpha. Ce que je vais prendre un bout de celui-là et un bout de celui-là. Mais je vais faire, si mon alpha ici égale 1, mon résultat, ce sera celui-là. Si mon alpha égale 0, mon résultat, ce sera celui-là. D'accord ? Donc mon alpha, c'est mes visages intermédiaires ici. Je vais terminer par les portraits robots, hein, je vous rassure, comme ça vous comprendrez mieux. Donc voilà, donc là effectivement on voit les 2 étapes qui sont fusionnées en une et qui permettent d'arriver au résultat. Les applications de ce type de travail, donc on a pensé aux portraits robots, mais ça va un peu plus loin. Tout à l'heure je vais vous parler de Second Life. Qui connaît Second Life ? Personne ? Les mondes virtuels, ça vous parle ? Donc sur Internet, il y a ce qu'on appelle des mondes virtuels où vous pouvez acheter, vendre, rencontrer des gens, etc. Notamment Second Life. Et sur Second Life, vous avez ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des agents virtuels qui vous ressemblent ou pas. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que certains criminels, en fait, le criminel, il a envie d'être reconnu. Pas identifié, mais reconnu. Parce qu'à un moment, il va montrer que c'est lui qui a commis ce qu'il a commis. Mais il ne veut pas être retrouvé par la police. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que son avatar, et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes, hein, pas toutes criminelles, les gens font en sorte que leur agent virtuel finisse par leur ressembler. D'accord ? Et donc, ça part de ce qu'on appelle la transformation de visage. Pour de l'avatar, ils vont le transformer avec leur propre visage pour essayer de voir à quel point il peut se ressembler. Il y a un test qui a été fait aussi pour les élections américaines avec McCain et Obama. C'est les 2 candidats actuels, où en fait, on a pris, par exemple, mon visage, je vais le morpher avec Obama, enfin le transformer avec Obama, et puis le transformer avec McCain. Et après, on va me présenter ces deux photos-là, et les deux photos réelles d'Obama et de McCain. Et on va me demander vers où je penche le plus. Et bien, je penche le plus vers les visages qui ont été morphés avec mon propre visage. Donc ça, c'est pareil. Tout ça nous intéresse parce que c'est une source de criminalité qui est assez importante. Donc voilà pour l'exemple de face morphing. On a aussi l'évolution du visage. Donc là, dans le département de Philippe Clou, ils s'intéressent effectivement au vieillissement des mineurs, mais aussi des majeurs. Donc ils ont leur outil. L'outil qu'on a développé pour les portraits robots permet aussi de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un individu à 17 ans, on a un individu à 32 ans, et on voudrait savoir si à 20 ans, c'est lui qui a commis le meurtre pour lequel on a une photo et c'est un cas non résolu. Donc ce qu'on va faire, on va faire du morphing entre l'individu à 17 et à 32. Vous le voyez se transformer. Et en prenant au prorata, c'est-à-dire un ratio entre 17 et 32, je vais extraire l'image intermédiaire que je vais estimer à 20 ans. Je vais prendre cet individu à son entrée en gendarmerie. C'est un collègue, hein, c'est pas un criminel. Donc effectivement, là, il avait 17 ans. Pour ceux qui ont connu Chris Waddle, c'est lui qui le dit, hein, c'est une coupe à la Chris Waddle. Donc on voit effectivement les cheveux, on se dit, ouais, c'est pas terrible, il y a les cheveux qui perturbent bien, quoi. Mais en recofacial, les cheveux sont pas pris en compte. Donc on peut avoir la coupe qu'on veut. Et effectivement, donc cet individu-là, on s'aperçoit par reconnaissance automatique qu'il matche bien avec celui-là. Alors que ces deux-là ne matcheraient pas forcément. D'accord. Et on arrive au portrait robot. Donc voilà les trois fameux portraits robots. Donc ce que je vais faire pour commencer, je vais prendre celui-là et celui-là, et je vais prendre le milieu des deux. D'accord. Avec alpha égale 1,5. Donc voilà, ça c'est le résultat final. D'accord. On voit un peu de voile ici, d'accord. On voit que c'est un peu de ses cheveux de celui-là. Donc on est bien à l'intermédiaire entre les deux. Ensuite, je vais rajouter celui-là. Et là, vous allez voir donc ce visage évoluer vers celui-là. D'accord. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est le visage intermédiaire. C'est ce que je fais là. Donc je ressors ce visage-là. Alors vous allez me dire, il ressemble un peu plus à celui-ci. Et vous avez raison, parce qu'en fait, vu la décomposition que j'ai faite ici, j'ai pris 25% de celui-là, 25% de celui-là, 50% de celui-là. D'accord ? C'est pour ça qu'il a tendance à ressembler un peu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il ressemble plus à la vraie personne ou pas ? Donc, ce qu'on va faire à la diffusion nationale, je sais pas si vous voyez de temps en temps des portraits robots diffusés, on va proposer non plus 3 portraits robots, mais 4 portraits robots. Et on a utilisé notre outil de reconnaissance automatique, et on s'aperçoit que le portrait de fusion est le mieux reconnu. Et effectivement, donc là, en plus, comme je vous disais, c'était 25, 25, 50. Et quand on utilise 33%, 33%, 33%, c'est encore mieux. On l'a fait sur quelques cas. Et effectivement, à chaque fois, ça va dans le bon sens. Donc ici, vous avez la photo du véritable individu qui, ici, a matché en cinquième position. Alors, quand on voit la photo réelle de l'individu, il a une coupe de cheveux un peu délirante. Donc, certaines personnes ont focalisé sur la coupe de cheveux. C'est pour ça que les autres cas, lui, il a une coupe de cheveux assez neutre, parce que l'individu n'a pas dû être très sensible à la coupe de cheveux qu'il avait. D'accord ? Je vous parlais de Second Life. Donc, je recommence sur Second Life. Donc, c'est des mondes virtuels où vous pouvez devenir milliardaire sur ces mondes virtuels. Et ces milliards, des fois, se transforment dans la vie réelle. Mais vous pouvez malheureusement aussi être des criminels en puissance, c'est-à-dire donner des rendez-vous à des mineurs, parce que comme c'est à travers l'ordinateur, le mineur il ne sait pas que c'est un adulte qui est derrière, vous allez vous retrouver, vous invitez la personne à une table de restaurant, etc. Vous pouvez largement sympathiser entre agents virtuels, d'accord ? Le souci, nous, c'est quand du virtuel, on va passer au réel, quoi. Parce qu'en fait, de ce type de réunion, ces rencontres entre les gens vont flirter sur ce monde virtuel et ils peuvent aller jusqu'à avoir des rapports dans le monde virtuel. Il peut y avoir du porno dans le monde virtuel et se donner rendez-vous à un moment sur des forums réels. Donc voilà, ça nous intéresse de savoir à quel moment ils vont se donner rendez-vous sur des forums réels et comment on peut les identifier, comment on peut les retracer. Donc faites attention à tous ces forums, faites attention surtout pour les enfants. Un adulte, en général, il sait à quel moment s'arrêter. Pour un enfant, c'est beaucoup plus difficile. Ici, vous voyez non pas une criminelle, mais une personne entre son avatar et elle-même. voyez qu'il y a eu du morphing. C'est quand même assez ressemblant. Donc, il y a des jeux d'argent, il y a pas mal de choses de toute la pédopornographie. Donc, ça, c'est vrai que c'est une vraie source d'inquiétude pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à toutes ces techniques de morphing, à toutes ces techniques de reconnaissance qui nous permettent d'aller, d'aller un peu plus loin. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous montrer directement l'exemple. Je pense que vous connaissez la personne qui est en bas.
Salam alaikum. عطي تصويت وصوت البلدان رقم موش امتحان حقيقي السلام عليكم السلام عليكم
j'ai mis repeat pour ça donc c'est une vidéo oui vous l'avez vu parler oui non vous l'avez pas vu parler si vous l'avez vu parler en fait c'est une photo vous l'avez pas vu parler attendez vous allez me décourager. Regardez ses lèvres.
Salam alaikum. Ati tasweet ou soit el beladan. Ratamouch amtihan hakiki.
Donc, c'est une photo en fait, c'est pas une vidéo. D'accord ? Mais ce qu'on a fait sur cette photo-là, on a repéré où étaient les yeux, on a repéré quelle était la forme du visage, on a repéré où était la bouche, et on peut aller plus loin, animer les épaules, tout ça. Et on a animé tout ça en synchronie avec la parole. Donc, après, c'est une vraie difficulté. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'imitation de la voix automatique. Donc, là, c'est un collègue qui parle. Mais il suffit que je transforme aussi sa voix, je dégrade un peu l'image et je peux envoyer ça où je veux. Et puis je peux faire dire, ben, j'entendais Sarkozy tout à l'heure, notre président dire ce que je veux qu'il dise. Et pas forcément sur des sites trop populaires, mais sur des petits sites. Et c'est ceux-là qui vont de rebond en rebond déclencher des choses assez, assez malicieuses, quoi. Alors ça peut être des gens connus, mais ça peut aussi être des gens non connus. C'est-à-dire que sur des blogs, des personnes peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre pour compromettre d'autres personnes, etc., etc. Ça, c'est... alors une fois que l'outil... vous trouvez ce type d'outil qui est amusant à 40 euros chez Carrefour, Auchan, Leclerc, comme ça, je les cite tous. Donc c'est quand même un vrai problème, quoi. L'amélioration d'image, l'authentification d'image. Donc, comme pour l'audio, on a pas mal de manipulations sur les images. Autant en argentique, c'était assez difficile, parce qu'il fallait presque être photographe. Autant en numérique, c'est très difficile, c'est très facile avec Photoshop. Vous êtes amatrice de trafic d'images ? De manipulation. Mais c'est assez normal, c'est-à-dire qu'on cherche tous à améliorer nos images, à rendre plus de soleil. Mais on peut aussi aller plus loin. Donc ici, je vais prendre cet exemple-là. Ben, c'est un montage entre deux personnes qui sont connues, là, ici, se serrent la main, Saddam Hussein et Bill Clinton. Donc, en fait, c'est un photomontage de trois images. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, je vais vous citer un exemple qui va vous parler, mais vous prenez vos enfants à la plage, en maillot, tranquillement, et vous envoyez ces images-là à vos parents par Internet. Et six mois après, il y a les gendarmes qui viennent frapper à votre porte qui vous disent « Pourquoi cet enfant que vous semblez connaître est sur un site pédophile nu ?» Et vous vous dites « Je ne sais pas, c'est mon petit-fils ou bien c'est mon fils, mais vous êtes catastrophé. » Catastrophé parce que les gendarmes sont venus chez vous et catastrophé parce que vous dites « Que fait mon enfant sur un site pédophile ?» En fait, le pédophile, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le sexe de l'enfant, c'est avoir de nouvelles images. Parce que dès lors qu'il va échanger des images, il va en avoir en retour. Donc ce qui est important pour lui, c'est d'alimenter une base de données. Donc ce qu'il va faire avec l'image qu'il aura interceptée de votre enfant en maillot, il aura viré le maillot, il aura mis un autre sexe d'enfant qu'il récupère par photomontage, et puis ça fait une nouvelle image dans sa collection, et puis après il peut échanger des images. Donc nous, ce qu'on va mettre en évidence, c'est effectivement que le maillot, il a été rajouté, trafiqué. Là c'est le cas ici, donc ça c'est l'image trafiquée, ça c'est l'image originale. Ce qui va nous intéresser, c'est le lien qui existe entre un pixel et ses voisins. D'accord ? Quand une image est non manipulée, il y a un vrai lien entre un pixel et ses huit voisins en l'occurrence. Et quand l'image est manipulée, on casse ce lien. D'accord ? Et c'est ce qu'on va réussir à mettre en évidence. Donc ici, vous avez une image, celle-ci correspond à celle-là, celle-ci correspond à celle-ci. Donc plus c'est noir, plus on va dire c'est décorrélé, c'est-à-dire plus c'est manipulé. A priori, après il faut savoir interpréter. Ici, vous voyez par exemple le coussin, il est très noir. En fait, c'est normal. Il est très décorrélé parce qu'en fait, c'est la texture elle-même du coussin qui fait qu'on a plein de plumes ou de laine qui fait qu'il y a quelque chose d'assez décorrélé. Donc on peut l'expliquer. Par contre, c'est assez homogène entre le visage de l'enfant et puis le tour, le fond de la photo. En revanche, ici, on a un visage d'enfant très clair parce que la personne a fait ce qu'on appelle une modification de l'histogramme. Elle a éclairci le visage de l'enfant comme vous faites quand vous voulez améliorer vos photos. Et puis, à côté, ici, on voit une frontière assez significative. C'est-à-dire que l'image a été manipulée sur toute cette zone-là. Et ça, c'est la frontière. C'est-à-dire qu'on a noirci ici. On a cassé le lien qui existait entre les pixels, ce qui fait qu'on a, on a cette noirceur-là. D'accord ? Ici, c'est une autre technique, mais dans une autre présentation plus appropriée au traitement de l'image lui-même. On s'intéresse aussi à tout ce qui est métadonnées. Les métadonnées, c'est des données qui sont associées à certains fichiers. Donc, dans ces métadonnées, vous pouvez retrouver l'appareil photo qui a pris la photo, vous pouvez retrouver ce type d'informations. Et vous avez notamment tout ce qui est petite vignette ici. La petite vignette, c'est quand vous allez sur un répertoire image que vous ouvrez, vous avez des petites images, d'accord ? Vous cliquez deux fois sur la petite image, vous avez la grosse image. La petite image peut être différente de la grosse image. Ce qui veut dire que pour un... On va toujours prendre la population des pédophiles, mais pour les néo-nazis, pour les terroristes, c'est un moyen assez simple de cacher des images aux enquêteurs. C'est-à-dire que l'enquêteur qui va perquisitionner, qui va regarder les ordinateurs, s'il n'ouvre pas toutes les images, il ne saura pas que derrière les vignettes se cache une image d'un groupe terroriste ou une image de... je ne sais pas si c'est des terroristes corses, une conférence de presse, et puis il y a l'image de la conférence de presse masquée, etc. etc. Donc je pense que vous voyez qu'ici, c'est différent. Hein. D'accord ? Même si, en fait, c'est un zoom. Mais les images sont différentes. Un autre moyen qu'on a développé, c'est de mettre en évidence l'appareil photo avec l'image. Alors, toujours pareil, bon, je vais essayer de cibler sur les groupes terroristes. On a un groupe terroriste, on a une image qui est récupérée sur un PC. La personne nous dit, non, ça j'ai récupéré sur Internet, c'est pas moi, quoi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir l'appareil photo. Et un appareil photo, dès que vous l'achetez neuf, il a ce qu'on appelle des pixels défectueux, même s'il est neuf, qui sont liés à la construction même de l'appareil photo. Et ces pixels défectueux, on va les retrouver sur les images. Donc c'est une sorte de signature de l'appareil. C'est-à-dire que l'image terroriste qu'on va récupérer sur l'ordinateur, on va réussir à la mettre en corrélation avec l'appareil photo. Donc on pourra certifier que l'individu a pris cette photo avec cet appareil. Après, il pourra toujours dire que ce n'est pas son appareil, mais là, c'est au travail des enquêteurs d'aller plus loin et puis de savoir effectivement quel est le lien de cet individu avec cet appareil. Un autre problème est la stéganographie. La stéganographie, c'est l'art de cacher une information dans une autre information. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Sand et Alfred de Musset. Oui. Leur correspondance. Oui. Donc, leur correspondance est assez coquine, en fait. Donc vous connaissez. Donc voilà. Donc c'est en fait l'art de cacher une information dans une autre. Donc on peut cacher une image dans du son. On peut cacher une image dans une image. On peut cacher du son dans une image. Enfin voilà, on peut faire un peu toutes ces manip-là. Et donc ce qui se passe ici, alors que nous, comme on est assez scientifique, ça nous perturbe un peu. C'est-à-dire, cette image-là, je vais la cacher dans celle-ci et je vais retrouver celle-ci. Alors nous, ce qu'on voit circuler sur le réseau, c'est ça. Ou ce qu'on va perquisitionner chez l'individu, c'est ça. Et là-dedans, il y a cette image. Alors quand vous faites 250 plus 50, ça fait... Ah, il n'y a pas de scientifique, là. Hein. 300. 300. Or, ça fait 250. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un vrai problème. En deux mots, comment que ça marche ? En fait, on va sur une image comme ça, un pixel correspond à 3 octets. Un octet à 8 bits, ici. D'accord ? Et sur cette image, vous avez 5 millions de pixels. Ce que je vais faire ici, cette image aussi, c'est une succession de 1 et de 0. Ben, ceux-là, je vais les mettre à la place des originaux, en noir, ici. Et je vais récupérer cette image-là. Alors pourquoi je fais, sans rentrer trop dans le détail, mais pourquoi je vais changer cela et pas cela ? Parce qu'en fait, quand je change ce qu'on appelle les bits de poids faible, les derniers, je vais, mettons, sur une image comme ça, je vais enlever un spectateur et je vais mettre autre chose à la place. Le spectateur, vous n'allez pas vous apercevoir qu'il est parti. Quoi. Le brin d'herbe, vous n'allez pas vous apercevoir qu'il est parti. Quoi. Par contre, si j'enlève Zidane ici, qui va tirer une coup franc juste avant de marquer son but, vous allez vous apercevoir qu'il est parti. En fait, parce que j'enlèverai pas Zidane, mais j'enlèverai tout le bleu, Vous voyez un short sans haut, ça fait bizarre, quoi. D'accord ? Donc c'est basé sur ce type d'analyse. Donc nous, là-dessus, on travaille non pas à réaliser ce type de stéganographie, mais à détecter tout ça. C'est-à-dire, nous, notre but, c'est de détecter qu'il y a une image cachée et de retrouver l'image qui est cachée derrière. Je vais passer à la dernière partie, je suis à peu près dans les temps. C'est la modélisation 3D de scène de crime. Donc là, vous avez une scène de crime réelle. Donc c'est une femme qui a été tuée. Alors ceux qui ont été à l'exposition sur la scène de crime ont vu certainement la vidéo, mais je vais vous en passer quelques-unes. Donc ici, donc on a des traces de sang au sol. On a une femme qui a été tuée devant son réfrigérateur et puis un impact de balle, un impact balistique ici dans le mur. Alors, je vais faire rebondir peut-être Philippe Clou, mais l'analyse en traces de sang et en balistique, je simplifie parce qu'en fait, c'était plus compliqué que ça. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas le faire rebondir, mais je vais simplifier à l'extrême. C'est que les résultats n'ont pas été les mêmes. L'analyse traces de sang aurait plutôt eu tendance à dire que la femme a été tuée à genoux, l'analyse balistique que la femme a été tuée debout. D'accord ? Je répète, c'est plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va essayer de faire une modélisation en trois dimensions pour savoir ce qui a pu se passer, pour essayer d'animer la scène. Donc, il y a deux techniques sur la modélisation en trois dimensions. Il y a ce que vous avez là, c'est-à-dire on va se déplacer sur la scène de crime, on va prendre des photos de la scène de crime avec un appareil photo calibré et on va utiliser différents logiciels pour remodeler notre scène comme ça de façon relativement virtuelle. Et il y a une autre méthode dont je vais vous parler tout à l'heure qui consiste à scanneriser une scène de crime avec l'emploi d'un laser scanner. On est aujourd'hui les seuls en France à utiliser cette technique et c'est quelque chose qui est utilisé dans bien des domaines, notamment les traces de sang, mais la balistique et simplement voir la modélisation d'accidents. Donc nos équipes travaillent effectivement de ces deux façons. Donc ici, on a ce type de modélisation-là ces modélisations sont mises en correspondance avec les plans cadastraux de l'appartement, etc., etc. Tout est fait à l'échelle, tout est fait à la bonne mesure. Donc vous avez ici effectivement la scène avec la jeune femme, l'écoulement des traces de sang et puis l'impact balistique. Donc je vais vous montrer la scène modélisée. Et à partir de là, vous allez essayer de me dire si elle a été tuée debout ou à genoux. Donc en fait, sur ce type d'analyse, on a, donc vous voyez effectivement, on est limité par le meuble ici, on a le point d'impact dans le mur, on a le point d'impact dans la tête, on connaît la distance arme à feu, point d'impact dans la tête, parce que c'est de l'analyse balistique, on est limité par la vitre ici, et donc on déroule les hypothèses. On regarde debout, si c'était possible, on regarde à genoux, si c'était possible. Et effectivement, donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que si la femme a été tuée à genoux, il faudrait que le tueur lui-même soit dans une position assez inconfortable, quoi. Donc, l'hypothèse qu'on a privilégiée dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, elle a été tuée debout. C'est l'hypothèse en plus du meurtrier. Pourquoi c'est important de savoir si elle a été tuée à genoux ou debout ? C'est en fait, on touche, même si c'est pas tout à fait ça, parce que là, c'est plus des circonstances aggravantes qu'un changement d'infraction, mais on touche à la différence entre l'assassinat et le meurtre. Est-ce que vous connaissez la différence ? Oui ? Voilà. L'assassinat est prémédité, le meurtre n'est pas prémédité. Donc, en l'occurrence, effectivement, la personne, c'est le mari de la victime. Il a pris l'arme qui était sur la table et puis il a tué sa femme. Je vais vous montrer une autre modélisation 3D. Donc, c'est un accident de chasse qui a mal tourné. Donc là, ce qu'on nous demandait, c'est de savoir si l'accident était possible. C'est-à-dire si la personne avait vraiment pu rentrer son arme dans la voiture. Donc là, la mesure de l'arme est exacte. Les experts sont déplacés. Ils ont pris l'arme sous tous les angles. La mesure de l'arme est exacte. Donc on regarde par rapport au point d'impact dans le véhicule, au point d'impact dans la tête, si tout ça est cohérent. Et effectivement, là, on s'aperçoit que bon, la version du tueur est effectivement... l'accident de chasse est possible. Un autre cas, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une hôtesse à Orly qui avait chuté d'une passerelle Il y a de ça quelques années. On vous montre que des affaires résolues. On évite de vous montrer des affaires en cours. Donc, on était allé effectivement sur la scène. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est simplement la scène dans sa globalité. Simplement pour illustrer le fait que des crashs d'aéronefs ou des accidents de voiture, on est capable d'intervenir. Il y avait eu un accident sur la 10 il y a quelques temps à Poitiers. L'IRCGN s'était déplacé. On n'avait pas fait de modélisation 3D à l'époque parce qu'on n'avait pas encore l'outil. Mais voilà, on intervient sur l'ensemble de ces scènes. Donc là, on s'aperçoit. Alors, vous allez voir là aussi un véhicule qui circule. Tout ça est fait vraiment à la vitesse réelle. Tout est à l'échelle parce que tout est pris à partir de photos calibrées. Et là-dessus, on peut dérouler toutes les hypothèses qu'on veut. Si on veut faire le véhicule aller un peu plus vite, on le fait aller plus vite. Si on le veut faire tourner à un autre endroit, on le fait tourner à un autre endroit. Si on veut animer les personnages dedans, on peut le faire, quoi. D'accord ? Alors, aujourd'hui, donc, je vous parlais du laser scanner. Donc, effectivement, on a acquis cet outil qui nous rend bien des services dans le sens où c'est vraiment un outil qui est puissant parce qu'on a un gain de temps qui est phénoménal par rapport à l'analyse précédente. On a une précision, Philippe Clou vous en parlera tout à l'heure, qui est vraiment intéressante dans le cas des expertises. Et c'est utile dans le cadre des scènes d'accident, dans le cadre de sauvegarde d'une scène de crime. Et dans le cas de l'analyse des traces de sang, je ne sais pas si je l'ai dit ou redit, et puis l'analyse balistique. Donc c'est à peu près les domaines dans lesquels la modélisation 3D est utile. Donc là aussi, je vais vous montrer le principe et quelques exemples. Donc là, vous avez une expertise réalisée par un collègue où tous les points que vous voyez ici, c'est les positions du scanner. C'est-à-dire, on va positionner le scanner, qui est une tête comme ça placée sur un trépied, à différents endroits d'une pièce, d'accord, et puis associée à différentes références. Et voilà ce que ça donne derrière. C'est-à-dire qu'ici, ça, bon, c'est en noir et blanc ou en couleur. Donc ça, c'est le résultat du scanner. Donc on est vraiment hyper réaliste. C'est-à-dire qu'on a vraiment la scène telle qu'elle est. La difficulté qu'on a encore un peu aujourd'hui, c'est de pouvoir faire bouger ce personnage pour qu'il aille d'un point A à un point B. Mais là-dessus, et vous le verrez à travers l'animation, on peut se promener, nous, notre regard, on peut le promener dans la scène. C'est-à-dire qu'on peut se placer sur cet angle-là, on peut voir ce que la personne voit de la fenêtre vers l'extérieur, etc., etc. Nous, on peut se promener dans la scène. D'accord ? D'autres exemples, donc là, c'est un véhicule suite à un accident de véhicule. Il faut bien se dire que tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des points, quoi. C'est des nuages de points acquis par laser scanner. Mais là encore, c'est extrêmement précis. Donc encore un exemple. Ici, vous avez le train, le train en Isère là, qui a percuté un autocar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date de 6 mois, un peu plus. Donc vous avez ici la modélisation effectivement de l'autocar post-accident. Et ici, vous avez une étude de trajectoire. C'est-à-dire une étude simplifiée au maximum. L'expert qui a travaillé là-dessus, son souci, là, c'est de montrer les différentes positions du train, différentes positions du bus, pour simplifier au maximum la scène, pour apporter les éléments les plus faciles à interpréter au magistrat. Mais il va bien entendu au-delà, puisque je vais vous montrer deux petites vidéos. Donc la première sur cet accident ferroviaire. Donc ça, c'est réalisé chez nous avec le laser scanner. Donc là, on se place à la place du conducteur de train. Toute la scène, tout ce que vous avez vu là, a été scanné, quoi. Donc les points que vous avez vus tout à l'heure sur la scène en couleur, c'est aussi les différentes positions de scan. Il faut différentes positions pour être capable de réaliser une scène comme ça. D'accord ? Donc là, c'est pareil, on peut faire bouger à différentes vitesses. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est le résultat de la percussion. Mais on peut figer ce résultat de percussion. On peut faire la même chose vis-à-vis du bus. C'est-à-dire qu'on verra à quel moment le conducteur de bus avait en champ visuel le train ou pas, quoi. Voilà. Et puis encore une autre scène qui est une reconstitution d'attentat qu'on a fait de chez nous. Donc là, c'est un tunnel, en fait. On va rentrer dans le tunnel. Et voilà. Donc l'intérêt, effectivement, d'une telle scène, c'est que après, ce que je vous disais, là, on fige la scène, on va pouvoir extraire toutes les mesures qu'on souhaite. Parce que là, on est vraiment au millimètre, quoi. Donc on peut extraire toutes les mesures, essayer de comprendre ben, pourquoi cette chaise figure là. Est-ce que la table ou la chaise qui est là a pu être l'arme du crime ou des choses comme ça, en fonction de la position. Enfin, c'est une aide vraiment précieuse à l'enquêteur, puisque la scène peut être balayée. Tous les indices sont en grande partie recueillis, quoi. Donc on peut effectivement zoomer, on peut affiner dessus. C'est un outil qui est vraiment très pointu. Est-ce que... Donc là, on le joue, on se promène dans le tunnel. Donc à savoir que ce type d'outil, c'est valable pour la scène de crime dans un bureau, comme pour une scène d'attentat. C'est vraiment quelque chose qui a un spectre d'utilisation très large. Donc j'ai passé à un dernier outil, là aussi, enfin, qu'on est les seuls à utiliser en France, c'est le radar de recherche de corps ou de recherche de cache. Alors je mens un peu en disant qu'on est les seuls dans le sens où c'est utilisé dans le cadre du bâtiment public, dans le cadre de l'archéologie, c'est des techniques qui sont connues. Nous, dans le domaine criminalistique, notre souci c'est de récupérer des choses qui existent et qui sont utilisées à bon escient ailleurs et d'essayer de les appliquer à notre domaine. Donc voilà le type d'image qu'on récupère, et c'est à nous d'être capable d'interpréter toutes ces images. Ça ressemble un peu à une image d'échographie. Derrière, ben, on va essayer de voir si il y a des formes caractéristiques. Le principe du radar, c'est de détecter une hétérogénéité entre un objet et son milieu. D'accord ? Si on a un corps qui est enfoui, le corps ne va pas réagir de la même façon que la terre qui est autour. Si on a une arme à feu qui est dans un mur, on va détecter de l'arme parce qu'elle aura un rayonnement qui sera différent du milieu environnant. Donc on a trois antennes, ce qui nous permet effectivement d'aller à différentes profondeurs avec des résolutions d'objets différentes. Comme ça, là aussi, on couvre un spectre assez large. On va même, donc là, on a des cas terrestres, mais on va jusqu'à fouiller les cours d'eau également, jusqu'à une certaine profondeur, bien sûr. Donc c'est là aussi un outil qui est très utile à les cours d'eau. Donc ici, l'anomalie. Voilà, l'anomalie est ici. Donc voilà, ce type de... Ça, c'est le fond marin. Ici, là, vous avez la ligne du zodiaque qui se balade avec l'antenne au fond du zodiaque. Donc, on connaît les sonars, hein, pour les pêcheurs. Le sonar, c'est une onde sonore. Le sonar sera très bon pour détecter un banc de poisson ici. Le radar, non, parce que le radar, il va passer au travers. Par contre, le sonar, lui, pour détecter une anomalie ici, lui, il sera pas capable. Il va passer au travers. Tandis que l'onde électromagnétique, elle va détecter cette anomalie-là. D'accord ? Mais là encore, c'est donc l'intérêt, c'est que dès lors qu'on détecte une anomalie, on a les plongeurs qui sont en mesure d'aller rechercher, enfin d'aller vérifier que l'objet qu'on a identifié est significatif ou pas. Donc ici, vous avez, on est intervenu sur une recherche de nourrissons disparus. Donc là, c'est un nourrisson qui a été enterré 36 cm sous le fond. Dans le cadre de recherche de cadavres, on intervient toujours avec les équipes cynophiles de la gendarmerie, donc les équipes cynophiles de Gramma. C'est un couple vraiment très complémentaire, puisque le chien est capable de balayer une grande surface dans un temps très court, des terrains accidentés. Le radar, il est plutôt sur des terrains non accidentés, mais il est performant pour essayer de signer un peu l'objet, savoir à quelle profondeur il est. Donc c'est vraiment un binôme qui fonctionne très bien, surtout que le radar compense certaines faiblesses du chien et vice-versa. Et ici, on a effectivement, après post-traitement, là, donc il y a un post-traitement 3D pour essayer de savoir la forme qu'il y avait derrière cette palissade. Donc c'était des armes à feu. Donc on est intervenu dans le cadre de l'affaire Courgeot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les bébés congelés en Corée du Sud. Enfin bon, c'est quelque chose qui est très utilisé. Le département, donc là je vous ai montré un certain nombre d'applications du département, s'efforce en fait de publier un maximum ces travaux dans le cadre de conférences scientifiques, dans le cadre de revues scientifiques ou voire d'ouvrages scientifiques. Pourquoi ? Parce que ces conférences, ces revues scientifiques ont ce qu'on appelle un comité de lecture qui sélectionne la validité ou pas de ce que vous faites. Donc pour nous, c'est indispensable de se confronter à la communauté scientifique pour être sûr que le résultat qu'on fournit aux magistrats ou aux enquêteurs, il est scientifiquement viable. Et on a effectivement différents partenaires. On est impliqué dans de nombreux projets, dans de nombreux réseaux d'excellence. On a notamment ce qu'on appelle le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation. Donc on est accrédité COFRAC. Donc là, c'est pareil, c'est une sorte de label des experts. Donc c'est le choix qui a été fait par l'Institut de se faire accréditer sur ces activités, parce que c'est une façon de valider nos méthodes par des gens extérieurs. C'est-à-dire que c'est un audit de personnes qui viennent de l'extérieur pour essayer effectivement de voir si ce qu'on fait est cohérent. Si ce qu'on fait est cohérent et si la formation des personnels est cohérente, enfin si tout le cursus est cohérent. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Donc si vous avez des questions, je pense que je suis à peu près dans le bon tempo. N'hésitez pas hein, sur l'IRCGN dans sa globalité. Enfin, je pense que vous l'aurez. Je ne l'ai peut-être pas trop évoqué s'il n'est avec des traces de sang, mais on couvre un spectre d'activités importants. Et le gros avantage qu'on a, c'est la communication qu'on a entre experts, puisque l'expert du département véhicule, ben, il est dans deux bureaux à côté ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile pour nous. Voilà. Oui ? Très bien. Donc je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci déjà. Je ne sais pas, on a vu déjà plein de choses, mais il y a peut-être encore des questions, ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Il y a des données scientifiques un petit peu, mais pas trop.
Vous pensiez qu'on faisait ce type d'activité-là ou pas ? Non ? Le gendarme n'est pas que sur le bord de la route. Oui. Donc, il y en a pas, il y en a beaucoup plus. Là, c'est un département. Oui. Des conférences à qui ? À vous ? Oui. Ouais. Alors effectivement, ces conférences sont parfois assez difficiles hein, parce que après, on est à la limite plus à l'aise dans des conférences qu'on appellera criminalistiques, parce qu'on est un échange, ou dans des conférences scientifiques. La différence, la difficulté avec le public, c'est on ne sait pas qui vous êtes, vous savez qui on est, et on ne sait pas ce que vous êtes potentiellement en mesure de devenir. Alors, c'est vrai que la course entre le gendarme et le voleur, elle est dans tous les domaines, quoi. Elle est sur le terrain, elle est dans les labos. Pour être honnête, je pense que sur la grosse criminalité, ils ont encore un temps d'avance pour certaines applications. Sur la délinquance moyenne, je pense qu'on est, aujourd'hui, on espère être en avance sur pas mal de projets. Mais parce que justement, on investit beaucoup sur des nouveaux domaines et c'est pour nous indispensable. Je l'ai mis dans les partenaires, mais on est aussi dans ce qu'on appelle le NFSI, c'est le rassemblement des laboratoires criminalistiques européens. Donc on a énormément d'échanges en international, ce qui nous permet d'échanger des cas concrets, de voir, nous, si on a des difficultés, on va échanger avec eux pour savoir si eux, de leur côté, ils ont une solution ou pas, quoi. Donc tout ça est très important, quoi.
Voilà. Bon, écoutez, je me laisse à vous remercier. C'était très intéressant. Moi, j'ai découvert plein de choses. Ah, une dernière question.
Alors, effectivement, on avait vu un de vos collègues qui était venu nous parler d'insectes il y a quelques années. Je pense que c'est un département à côté du vôtre. C'était très intéressant tout ce que vous avez expliqué. Est-ce que je peux vous demander une petite précision au sujet de l'image qui avait été intercalée dans une autre image? Vous savez, vous aviez 250, 250 plus 50, c'était pas possible que ça ait été rajouté. Oui. Alors vous enlevez les chiffres du bout, mais oui. vous saviez ce que vous cherchiez ou vous cherchiez ou quoi?
Là, je cherchais à cacher une image dans une autre. Je cherchais pas à détecter qu'il y avait une image. Volontairement, je vais pas aller trop loin, parce que là, je veux pas donner des clés, en fait.
Bon, d'accord.
D'accord, parce que c'est un vrai problème, hein.
C'est vous qui avez fabriqué l'image, c'est vous qui avez décidé de cacher quelque chose dans une image. Ok, compris. Oui. Donc vous savez où vous avez enlevé les dernières
oui,
parties des octets.
Parce que, oui. Soulet, c'est une technique scientifique, quoi. C'est une technique scientifique. Là, la steganalyse, donc rechercher l'image dedans, c'est encore une autre technique. Et là, effectivement, je vais pas tout dévoiler, quoi.
Et alors, une autre précision, quand vous avez montré tout ce qu'on pouvait faire avec des lasers, vous savez, vous avez reconstitué. J'ai pas compris comment ça marchait.
Donc le laser, vous avez en fait un trépied. D'accord, un trépied de chantier. Vous avez la photo, je ne sais pas si vous avez fait attention à la photo que j'ai présentée. Donc ici, c'est la tête du laser. D'accord.
Oui.
Donc ici, vous avez un laser entre les deux extrémités, là, qui va tourner à 360 degrés. Enfin, il y a des miroirs qui vont tourner à 360 degrés. Donc, et ça, c'est une tête qui va pivoter également. D'accord. Donc vous posez votre laser ici, il va scanner comme ça toute la pièce en tournant sur lui-même. D'accord. Donc il va acquérir un certain nombre de points. Derrière, il y a du travail logiciel, d'accord, qui mettra tous ces points, tous ces nuages de points en concordance. Après, ici, si je scanne ici, tout ce qu'il y a derrière la table, je ne le vois pas. D'accord. Donc je vais repositionner mon trépied ici, je vais refaire un scan, ce qui me permettra d'avoir une autre vision. Et je vais aller un peu plus loin, je vais refaire une autre vision. Et je vais assembler en fait tous ces différents scans pour avoir une cohérence de vue, et tout ça me reconstituera ma scène dans sa globalité. Quoi.
Comme les géomètres.
Je croyais que vous faisiez qu'un point par position de laser, mais non, vous faites un tour complet.
Oui, d'accord, oui, okay. C'est un tour complet.
Là, je comprends.
Et en fait, ce que vous voyez, il y a un appareil photo aussi qui est au-dessus, c'est la différence entre ces deux images-là. Ici, là, ici, vous avez le scan. Ici, vous avez un appareillement avec la photo. D'accord. Oui.
Une petite question aussi au début de votre exposé. Vous parliez des boîtes noires là, qui sont oranges
oui.
dans les avions lors d'un crash. Et est-ce que systématiquement, elles parlent, ces boîtes? Ou est-ce qu'en fonction des circonstances du crash, elles peuvent être détruites?
Alors, quasiment systématiquement, elles parlent. Je ne vais pas vous donner les caractéristiques parce que ça dépend un peu des boîtes noires. Mais elles sont très robustes à tout ce qui est température extrême. Elles sont très robustes à la pression, profondeur, crash dans la mer. Elles sont robustes au choc. Donc, en général, elles parlent. Et elles parlent de différentes façons. Moi, je vous ai parlé de la partie audio. Mais dans les boîtes noires, on ne récupère pas que de l'audio. On récupère aussi des paramètres de vol. Donc là, c'est un autre organisme, qui s'appelle Reseda, qui, lui, va rejouer les derniers instants de vol. De façon à voir, on va rejouer les paramètres du vol, à quel moment l'avion a décroché. Et il rejoue ça de façon virtuelle. Donc, en général, les boîtes noires parlent toujours. Quoi. La grosse difficulté, c'est souvent de les retrouver. Quoi. Voilà. Question ? Est-ce qu'on les retrouve toujours ? Non. Non, justement, on ne les retrouve pas toujours. Là, c'est vrai que c'est une difficulté. Maintenant, on sait que, comme elles parlent quasiment toujours, il y a souvent beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour les récupérer. Quoi. Et aujourd'hui, on a les formats qui ont bien changé. Parce qu'au début, on était en analogique sur ces boîtes noires, c'était des bobines. Aujourd'hui, on est en numérique, ce qui veut dire qu'on peut mettre beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, la capacité d'une boîte noire n'est pas... La boîte noire n'est pas remplie, quoi. Il y a encore de la place pour mettre des informations. Donc on est en train de penser à quel autre type d'informations on pourrait mettre. Peut-être de la vidéo dans les avions, ce genre de choses. Quoi. Et après crash, elles émettent des... Oui. Pendant un certain temps, elles émettent, effectivement, pour pouvoir être détectées. Mais seulement pendant un certain temps.
Je reviens à la charge. Oui, on a un petit peu une formation, nous, dans la maison. On essaie d'intéresser les gens aux métiers qu'ils pourraient faire. Comment on rentre à Rosny-sous-Bois ?
Alors,
qui rentre ?
À l'IRCGN. Donc, pour rentrer à l'IRCGN, il faut être donc, soit gendarme, soit officier de gendarmerie, soit personnel civil de la Défense. Quand je dis gendarme, je dis sous-officier de gendarmerie, en fait. Ça va de tous les grades. La plupart rentrent en école de gendarmerie, officiers, sous-officiers, suivent leur formation, vont sur le terrain, parce que l'aspect terrain est important pour nous, dans le sens où ça permet de se confronter à une réalité qu'après, on va essayer d'analyser. Quoi. Donc, en général, le gendarme il part sur le terrain, il fait son travail d'enquête, il fait son travail classique de gendarme, et parce qu'il a des diplômes, parce qu'en général, il faut avoir des diplômes civils pour pouvoir rentrer, il est coopté chez nous, ou parce que c'est un enquêteur de terrain qui a beaucoup d'expérience sur le terrain, et il a des diplômes spécifiques gendarmerie, et il va nous intéresser aussi. Quoi. Il y a toujours cette dualité de compétences. Donc pour ceux qui ne veulent pas forcément être gendarme, il y a la voie personnelle civile de la Défense. Donc il y a deux niveaux. Il y a les techniciens supérieurs d'études et de fabrication et les ingénieurs d'études et de fabrication. Le niveau technicien, c'est Bac plus 2, niveau technicien supérieur. C'est un concours du ministère de la Défense qui est sur un site web. Et il y a les ingénieurs, parce que le titre d'ingénieur n'est pas un titre protégé. Donc je crois que c'est Bac plus 4 qui peuvent passer dans n'importe quelle discipline. Quoi. La difficulté, c'est que quand vous passez le concours, une fois que vous êtes ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la Défense, vous pouvez postuler pour la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, ou l'IRCGN. Quoi. Ça dépend après de votre classement et des postes pour lesquels, vers lesquels vous souhaitez orienter votre carrière. Donc ça, c'est pour la gendarmerie. Il y a aussi des possibilités dans la police nationale que je connais moins bien. Il y a ce qu'on appelle les ASPTS, agents PTS de police technique et scientifique. Il y a les techniciens de police technique et scientifique et il y a les ingénieurs de police technique et scientifique. Donc là, c'est pareil, c'est sur le au ministère de l'Intérieur, il y a des concours. La police, dans sa formation, n'a pas de scientifique. Quoi. À l'IRCGN, on est, pour beaucoup, on est scientifique. On a quelques juristes, parce qu'il y a aussi une part de droit, mais pour la plupart, on est scientifique. La police n'a pas dans sa formation de scientifique. Donc elle prend des ingénieurs, des techniciens ou des agents dans le milieu civil, sur concours. Voilà. Il y a possibilité de faire des stages aussi, enfin, qui est une façon de découvrir ce milieu qui est effectivement un milieu plutôt passionnant.
Et vous êtes nombreux à travailler toutes.
Alors l'IRCGN, on est 250, 200 sur le site de Rosny-sous-Bois et 50 dans tout ce qui est ADN, conservation des prélèvements ADN, donc qui est sur Cergy-Pontoise, puisque depuis 2004, je crois, pas me tromper. On a ce qu'on appelle le SCAGEND, donc qui a été créé pour conserver tous les échantillons ADN pendant une durée, je crois que c'est de 40 ans. Donc là aussi, ça nécessite du personnel. Un dernier point peut-être sur l'IRCGN. Donc, l'IRCGN, vous l'aurez compris, c'est 12 départements criminalistiques. C'est aussi une unité nationale d'investigation criminelle. C'est-à-dire sur les grosses scènes de crime, on envoie un collège d'experts, on va dire, qui sont plus ou moins multicompétents et qui vont essayer de prendre en compte la scène de crime si la scène de crime est d'ampleur. Parce que sur le terrain, on a des spécialistes, on va dire, c'est les techniciens en investigation criminelle qui sont spécialisés dans la collecte de traces, qui sont spécialisés dans tous ces domaines. Pour des scènes de crime particulières, l'IRCGN peut intervenir par cette unité-là. Et on a aussi ce qu'on appelle l'unité gendarmerie d'identification des victimes de catastrophes. Donc l'IRCGN est intervenu sur le Concorde, dans le cas du tsunami, pour essayer d'identifier les corps. Le tsunami, ça nous a occupé un an. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, on a envoyé du monde en Thaïlande pour travailler à l'identification des corps. Donc dès qu'il y a une grosse catastrophe, de toute façon, l'IRCGN est impliqué. L'unité nationale d'investigation criminelle a été impliquée sur toutes les opérations de piratage qui ont eu lieu assez récemment. Pour essayer de savoir, ben, dès qu'il y a des intérêts français en jeu, l'IRCGN étant une unité nationale, on peut comme ça projeter des personnels. Quoi. Ouais, vous voyez, c'est assez. Le champ est assez ouvert. Quoi. Voilà, je vous remercie.
Merci.